Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Il n'aura échappé à l'oreille de personne que, du coup, est devenu un omniprésent tic de langage. Étonnant? Non. Car plus un jour ne passe désormais sans qu'une parole ou un geste de provocation ne vienne nous cogner et ne fasse la une des journaux. Une des explications qu'on entend souvent est celle de la fenêtre d'Overton, qui consiste à faire passer des idées de l'impensable vers les politiques publiques, en passant par plusieurs étapes, l'impensable devenant le radical devenant acceptable, puis raisonnable, et enfin populaire, de sorte qu'on peut, sans risque de soulèvement social, appliquer dans les politiques publiques des idées qui, quelques années auparavant, relevaient de l'impensable. L'OCDE, dans son cahier de politique numéro 13, publié en 1996, réfléchissait aux stratégies d'ajustement nécessaires pour éviter les troubles sociaux lors de la mise au pas néolibérale. Comme dans la fable de la grenouille et de l'eau bouillante, il s'agissait de détériorer progressivement les conditions de vie des populations afin qu'elles ne se révoltent pas et ne mettent pas en péril la croissance. Je cite ce rapport, que je vous invite vivement à lire. Il est clair que l'instabilité politique a un impact négatif sur la croissance. On peut donc penser que, toutes choses égales par ailleurs, les programmes d'ajustement suivis de violence freinent plus la croissance que les autres programmes d'ajustement. L'idée était donc d'imposer par degrés le néolibéralisme pour empêcher les populations de prendre conscience de la dégradation programmée de leurs conditions de vie. Je cite encore. Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire par exemple les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non pas à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement. Et l'école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école, mais non dans l'établissement voisin, de telle sorte que l'on évite un mécontentement général de la population. Fin de citation. C'était il y a 30 ans, et on peut dire que jusqu'en 2008, c'est de cette façon que le néolibéralisme a construit, pas à pas, la cage d'acier dans laquelle nous avons perdu à la fois notre liberté et le sens de nos vies. Je reprends cette expression que le sociologue Max Weber a employée pour la première fois en 1904. Depuis 2008 et depuis que le grand récit des bienfaits du néolibéralisme s'est effondré, il a fallu trouver autre chose. Et cette autre chose a bien évidemment à voir avec le statut de la parole, statut dont nous sentons chaque jour qu'il a effectivement changé. Certes, la stratégie des petites phrases a, depuis plusieurs décennies déjà, envahi le champ politique, réduisant l'information à la communication et les débats démocratiques en duel télévisé, puis en clash Internet. Dès 2007, la clairvoyante essayiste Naomi Klein avait théorisé la manière dont le capitalisme du désastre mettait en place la stratégie du choc. Les provocations incessantes qui font le buzz participent de cette stratégie. Il ne s'agit plus, depuis bien longtemps, d'opposer des idées, ni même d'agrandir la fenêtre d'Overton. Elle est maintenant totalement ouverte, non seulement sur les idées de l'extrême droite, mais aussi sur l'extrême libéralisme. Deux idéologies qui se fondent sur l'idée commune que les êtres humains doivent être mis en concurrence. Si ces provocations ne servent plus à agrandir la fenêtre d'Overton, à quoi servent-elles ? On ne peut en effet imaginer à ce niveau-là des États et ou des responsabilités que ces provocations seraient l'expression d'individus isolés, plus ou moins psychopathes, même s'il faut dire que la place s'est ouverte pour que des éléments d'irrationalité puissent faire le jeu du cadre désormais mis en place. À l'intérieur de la cage d'acier, libérer l'irrationnel aura logiquement les conséquences attendues de la mise en concurrence des uns contre les autres. Pour le dire encore autrement, ces provocations appellent deux remarques. D'une part, elles focalisent notre attention et occupent le terrain de l'information. On ne parle que de ça. Et donc, on ne parle pas d'autre chose. D'autant plus qu'elles sont d'une telle violence et qu'elles se renouvellent à une telle fréquence qu'on va de choc en choc. Ces provocations sont donc pour une part des diversions. Elles empêchent de penser. Elles occupent notre attention, notre énergie et notre indignation sur des déclarations qui, certes, n'ont rien d'anecdotique dans leur gravité, mais sont pourtant des manifestations ponctuelles et qu'on nous présente comme isolées. Bref, par leur violence et leur fréquence, elles nous interdisent de penser ce qu'elles ont de systémique. Et même, elles continuent tout ce qui a été mis en place depuis trois décennies pour nous désapprendre à penser. En cela, 2008 n'est pas tant une rupture avec ce qui précédait qu'une accélération. Mais ces provocations sont beaucoup plus que des diversions. Elles sont l'expression même d'un système qui fonctionne au chaos, c'est-à-dire d'une réalisation de la violence. La parole n'est plus le lieu possible d'un dialogue ou d'un dissensus, voire d'un débat opiniâtre. Elle est le lieu même où se réalise la violence. La parole est instrumentalisée pour faire violence. Or, ce qu'il faut dire évidemment, c'est que ces provocations sont largement médiatisées et que d'une certaine manière, elles fédèrent un mécontentement totalement impuissant, certes, mais qui sert de soupape de sécurité en même temps que de conduit d'évacuation. La violence n'est donc plus seulement, si on peut dire, dans les mesures effectivement prises pour imposer au monde une marche néolibérale. Elle est dans la parole même. On assiste tout de même là à un curieux renversement, puisque la parole ne sert plus à dire pour évacuer et penser la violence, mais au contraire, à maintenir une violence constante, à construire une impasse où il n'y a pas d'alternative à une concurrence de plus en plus grande, y compris dans la sphère même du langage. Après la politique de l'ajustement, après le temps du clash et des provocations, nous voici à un temps de dévitalisation de la parole. Au fond, ce que dit la succession de provocations, c'est que la parole n'a plus aucune valeur, qu'on peut la donner et la reprendre, qu'on peut s'autoriser à tout dire, c'est-à-dire que ce qu'on érige en système, ce n'est ni plus ni moins qu'un système pulsionnel où ce qui fait loi, c'est la loi du plus fort. Nous voici donc dans un système où l'État n'est plus le garant du droit, mais au contraire, érige en loi ce qui échappe au droit. Un système où ce qui fait loi, c'est la violence. Et c'est cela que viennent à la fois dire et imposer ces provocations incessantes, que nous sommes entrés dans une jungle où la force fait office de loi et où la force, c'est la violence. Un système dans lequel tout est permis, y compris d'ailleurs les paroles de contestation, pourvu que, violente, elles fassent le jeu d'une organisation des rapports sociaux sur le mode de la violence. C'est probablement dans ce cadre qu'il faut analyser le succès de l'expression « du coup » qui a littéralement envahi notre parole. Peu à peu, c'est la logique de la guerre comme mode de gouvernement qui s'impose. Ou plutôt, la logique de la guérilla partout. D'un monde où partout sont allumés de multiples brasiers de haine et de violence qui sont économiquement rentables. Puisque ce qui rapporte de l'argent, c'est la quantité de flux d'échanges, quelle que soit la tendance boursière, à la hausse ou à la baisse. Au fond, il s'agirait de faire accepter que la parole soit devenue une marchandise comme une autre, et le langage, rien d'autre qu'un outil coté en bourse. I've got big balls, I've got big...